7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Depuis le 21 février jusqu'au 1er mars, le Salon de l'agriculture revient porte de Versailles à Paris comme chaque année. Et cette année encore, 700 000 visiteurs, soit un Français sur 100, viendront faire un état des lieux de la plus grande ferme de France à travers les 1050 exposants venus de 22 pays, présenter qui leurs animaux, qui leur gastronomie du terroir. L'occasion idéale pour nous intéresser au métier de l'agriculture. Et oui, entre la terre et notre assiette, il y a plus que l'agriculteur sur son tracteur. Quels sont ces métiers de l'agriculture? Comment évoluent-ils? Quelle place pour l'agroécologie dans cette équation? Pour répondre à ces questions et aux vôtres que j'imagine nombreuses, les voisins, Anne Legille, chef de projet à l'agriculture à l'AFD, bonjour.
Bonjour.
Marc Joumier, adjoint à l'enseignement et à la recherche au ministère de l'Agriculture, bonjour.
Bonjour.
Et Leïla Akhmis, directrice exécutive de la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission est riche de vos participations, les voisins, sur Facebook, où vous réagissez déjà nombreux, et continuez, mais aussi au standard de 7 milliards, 33 1 84 22 71 71. Le standard est là pour ça. Marquis Joumier, le secteur agricole français, aujourd'hui, c'est 480 000 exploitations et 952 000 personnes, dont 163 000 salariés. Tous ne sont pas juchés sur un tracteur. Quels sont les métiers de la filière agricole?
Oui, effectivement, la production agricole, c'est ce qu'on retient, on va dire, et c'est ce qui est l'image, on va dire, de l'agriculture.
Quasiment mais, d'Épinal.
Oui, tout à fait, d'Épinal, mais qui est une vieille image, hein, pour le coup, et qui mériterait d'être largement dépoussiérée. On a des métiers beaucoup plus vastes, aujourd'hui, qui tombent sous le domaine agriculture. Alors, on va dire, il y a 4 grands domaines.
Oui.
Le premier, donc on va le reciter puisque c'est quand même celui qui fait l'image. Donc on est sur la production agricole. Donc là effectivement l'image entre guillemets du paysan, je le dis vraiment entre guillemets sur son tracteur, mais sachant que cette image-là est une image un petit peu effectivement désuète vu aujourd'hui les techniques qui peuvent être employées, on va dire dans le monde de la production agricole. Mais vous avez derrière 3 autres secteurs qui sont presque en termes de nombre d'élèves, c'est plus de 470 000 élèves hein, sur l'ensemble du secteur agricole. Mmh. Et vous avez à peu près, en étant un 3/3 qui sont répartis, un sur le secteur de production agricole, et après vous avez 2 autres gros secteurs, le secteur des services et en gros le secteur de l'aménagement. Je caricature volontairement sur ces 3 secteurs-là. Sur le secteur des services, on est, à l'instar de ce qui peut se trouver à l'éducation nationale, sur les services qu'on appelle en milieu rural. Donc vous avez effectivement la production agricole qui va effectivement sortir de la terre, j'allais dire de la viande, des végétaux, des légumes, enfin tout un ensemble de choses qui sont sujets à la consommation de tout à chacun. Et les métiers des services vont être, par exemple, des personnes qui sont dédiées à la préparation de plats, à la même chose qu'on peut trouver effectivement en milieu urbain, mais voilà, de la préparation de plats, de l'appui, on va dire, à certaines familles, mais en milieu rural, donc avec des spécificités un peu plus rurales. Entre les deux, vous allez trouver le secteur de l'aménagement, qui est un secteur beaucoup plus vaste, qui va toucher à la fois les métiers autour de la forêt, les métiers autour des travaux paysagers, les métiers autour de l'environnement d'une façon générale. Et donc dans l'environnement, il y a également beaucoup de choses qui peuvent être abordées, hein. Gestion, protection de la nature, gestion et maîtrise de l'eau. Il y a beaucoup en fait de sous-spécialités qui sont aujourd'hui des problématiques sociétales hyper importantes. Donc ce secteur aménagement couvre effectivement beaucoup beaucoup de métiers et de spécialités. Et vous avez le dernier petit secteur, on va dire, qui touche les industries agroalimentaires, donc c'est seulement, on va dire, 3 ou 4% à peu près des élèves scolarisés dans l'enseignement agricole. Mmh. Mais l'agroalimentaire, c'est ce qui fait un peu le lien entre, on va dire, le secteur des services où, à la limite, on peut utiliser les produits, et le secteur production où là, effectivement, ça sort de terre, si je puis dire. Mmh. Donc là, vous avez tout ce qui est métier autour de éventuellement de la confection de certains plats cuisinés, tout ce qui est les métiers de la transformation, autour de l'alimentation, etc., avec des problématiques derrière, évidemment, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Qui sont aujourd'hui très très forts.
Qui sont d'actualité, qui nous concernent, qui concernent les consommateurs que nous sommes. Évidemment, le sujet reviendra certainement au cœur de nos échanges. Autre lieu, autre réalité. Sur Facebook, les voisins, vous nous parlez des vôtres. comme Asmaou à Conakry, en Guinée, qui nous dit « En Guinée, mes parents agriculteurs utilisent encore la daba, la houe. Ceux qui sont moins pauvres louent la charrue. Les tracteurs et moissonneuses, on n'en voit qu'à la télé. » Djibril Akaï, c'est au Mali, nous dit la houe contre le tracteur. Tel est le duel du coton malien, coton étranger. L'industrialisation massive de l'agriculture a contraint les petites entreprises au renoncement. Est-il impératif que l'agriculture génère autant de charges? Comment amoindrir les coûts d'exploitation? Comment tenir face aux fluctuations? Comment le pauvre pourrait sauvegarder sa concession? Si tous deviennent chercheurs, qui seront exploitants? Troisième voisin, un voisin béninois, Inès, une voisine d'ailleurs à Cotonou, qui nous dit « L'agriculture dans nos pays, avec tout le potentiel dont elle dispose, reste très pénible. » Tributaire de la pluviométrie, très aléatoire par ces temps, et n'attire guère. Les outils de travail sont restés presque les mêmes qu'au XIXe siècle. De plus, dans un monde très village planétaire où les agriculteurs du Nord sont subventionnés, nos pays n'arrivent pas à contrôler les marchés internationaux et se voient imposer le diktat de ceux-ci sur les prix de vente des matières premières. La concurrence est rude, même sur les marchés internationaux. Un métier, une appellation, agriculture, des réalités contrastées, Anne Le Gille. On a l'impression, à la lecture des témoignages des voisins sur Facebook, que j'encourage à continuer d'ailleurs, qu'on ne parle pas du même métier que ce que vient de nous exposer Marc Joumier.
Oui, effectivement, il serait plus juste de parler des agricultures. Et je pense que c'est la principale caractéristique, hein, c'est la diversité des formes d'agriculture qui existent sur notre planète. Alors, effectivement, Marc parlait d'une image désuète de l'agriculture, de l'agriculteur sur son tracteur. C'est vrai qu'en France, le nombre d'exploitations est devenu très faible, moins de 500 000 exploitations. Mais je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. Sur l'ensemble de la planète, l'agriculture concerne 2,6 milliards de personnes sur les 7 milliards de voisins que nous sommes. L'agriculture fournit du travail à 40% de la population active. C'est 500 millions d'exploitations agricoles dans le monde et effectivement, une grande partie de ces exploitations cultivent moins de 5 hectares. Et comme le disent très justement vos auditeurs, une grande partie de ces exploitants n'ont pas accès aux équipements mécanisés de type tracteur, motoculteur, etc. Et ils cultivent à la main. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et je dirais aussi que aujourd'hui, on parle de métier. Dans beaucoup de géographies où nous travaillons, l'Agence française de développement, c'est-à-dire majoritairement en Afrique subsaharienne, pour beaucoup de personnes, l'agriculture n'est pas considérée comme un métier aujourd'hui. Quand vous êtes agriculteur, sur votre carte d'identité, oui, très souvent, il est indiqué sans profession. Et je pense que là, on touche quelque chose de intéressant. Un métier, c'est, si on prend la définition du Larousse, c'est une profession qui demande des savoir-faire spécifiques, des compétences, des connaissances que l'on peut acquérir par l'expérience, bien sûr, mais aussi par la formation. Et on a en France un dispositif de formation professionnelle agricole très performant. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, davantage qu'un métier, l'agriculteur est un non-choix, en fait. On est agriculteur par défaut.
Parce qu'on ne peut pas faire autre chose,
souvent,
parce que les parents n'ont
pas
les moyens de faire des études.
Exactement. Alors ça a été une réalité pendant de nombreuses années. Heureusement, aujourd'hui, les choses changent. Nous avons des dispositifs de formation professionnelle agricole que nous encourageons à l'Agence française de développement dans de nombreux pays qui aident les agriculteurs de ces géographies à prendre en compte et à faire face aux défis qui sont les leurs aujourd'hui, changement climatique, meilleure gestion des ressources naturelles, etc.
7 milliards de voisins et l'agriculture, d'ailleurs, on ne dit pas l'agriculture, on dit des agricultures. Vous l'aurez compris, les voisins. Tout de suite, c'est la musique de Trio, ça s'appelle Les Nouveaux Bergers.
Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd?
chiens qui nous surveillent sont issus de la science. Combien de satellites au-dessus de la France? Combien au-dessus de l'Afrique pour gérer ces mouvances du Zaïre au Rwanda? Un troupeau en errance, quelque part en Irak, un vieux berger en démence. Et tous ces ovinés de Bosnie, du Tibet, qui meurent dans les abattoirs des nouveaux bergers. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons l'autre? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on boutera le gazon que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon l'autre? Les nouveaux bergers se réunissent en instance, et bien que la moisson soit là en abondance, très peu de leurs brebis se rempliront la panse. Les nouveaux bergers peuvent, mais ont peur de donner. Les barbelés s'étendent sur les troupeaux affamés, et bien que la tonte ait lieu chaque hiver, chaque année, tout le monde sait bien ce que le berger pense. Un pull pour l'hiver et couvrir ses dépenses.
Trio dans 7 milliards de voisins, les nouveaux bergers. Aujourd'hui, les voisins, on parle des agricultures, de l'agriculture dans sa grande diversité, aussi bien géographique que de pratique. Nous sommes toujours avec nos trois invités, Marc Joumier, Anne Le Gille et Leïla Akmis. Avant la musique des trios, nous étions dans la découverte des différents métiers de l'agriculture, Leïla Akmis, et nous avons entendu comment ça se passe dans le nord du globe, aussi en Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique n'a pas perdu le nord. Et il y a des réalités aussi du nord de l'Afrique que vous connaissez bien.
Effectivement, nous aussi, on peut parler de plusieurs agricultures au niveau du Maroc. Au Maroc, nous avons encore 1,5 million d'exploitations agricoles avec, disons, trois types d'agriculteurs, des tout petits agriculteurs dont la superficie de l'exploitation est tellement petite qu'ils ne peuvent pas vivre que de l'agriculture.
Ah, ils sont obligés, c'est un métier complémentaire.
Complémentaire, ils sont obligés de faire de l'artisanat, de l'élevage, etc. pour avoir plusieurs sources de revenus. Ensuite, nous avons des petites et moyennes exploitations agricoles qui, pour le coup, donc, ont des superficies un peu plus importantes, qui permettent à ces familles de vivre uniquement de l'agriculture, mais qui n'ont malheureusement pas forcément des garanties, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un titre de propriété, un titre foncier sur ces terres, et qui ne leur permettent pas toujours l'accès au financement. Bon, au niveau de la banque que je représente, qui est le Crédit Agricole du Maroc, nous avons justement développé une société de mésofinance, qui offre un financement à ces petites et moyennes exploitations, même si elles n'ont pas de titre foncier de par un mécanisme de garantie par l'État. Et nous avons aussi une agriculture moderne, à l'instar de celle qui existe dans les pays du Nord, qui elle justement souvent exporte ses produits vers le Nord et qui est soumise à d'autres problématiques de nouvelles technologies.
Dont j'imagine que vous les accompagnez aussi différemment au Crédit Agricole.
Exactement. Ces 10% là sont en termes de financement, ont accès au financement classique puisque eux pour le coup ont des garanties, et eux c'est d'autres types de produits qu'ils demandent, comme l'accès aux marchés internationaux, tout à fait un autre type d'accompagnement.
Anne Le Gille, quand j'entends Leïla Akmis, on peut se poser la question, au fond, est-ce que c'est le financement, le niveau de financement qui fait l'agriculteur ?
Non, ce n'est pas le niveau de financement qui fait l'agriculteur. Il y a un ensemble de caractéristiques qui font l'agriculteur. Évidemment, son type de système de production. Est-ce que c'est un éleveur ? Est-ce que c'est un agriculteur ? Est-ce que c'est un maraîcher ? Est-ce que c'est quelqu'un qui produit des céréales ? Quelle est la dimension de son exploitation ? Leïla Akmis a rappelé qu'au Maroc, il y avait plusieurs catégories d'exploitation, des petites exploitations jusqu'aux exploitations qui sont comparables à celles que l'on peut avoir en France. Donc c'est l'ensemble de ces caractéristiques qui font l'agriculteur. C'est aussi bien sûr les pratiques qu'il met en œuvre, c'est l'environnement dans lequel il se trouve, c'est son lien au territoire, mais il est évident que l'accès au financement est une condition essentielle pour le développement des agricultures. Et on est effectivement très heureux à l'Agence française de développement que des banques telles que le Crédit Agricole du Maroc accompagnent non seulement les grandes exploitations pour qu'elles soient plus compétitives, qu'elles puissent être concurrentes d'autres agricultures plus performantes dans d'autres régions du globe. Vos auditeurs parlaient de concurrence déloyale entre des agricultures très performantes, très productives
et très subventionnées.
Et de l'autre côté, effectivement, des agricultures qui n'ont pas du tout le même niveau de productivité et qui se retrouvent sur le même marché. Un des auditeurs,
qui peut-être parlait
du coton au Mali, par exemple. Le coton, c'est une production qui est le fait de pays en développement, tels que le Mali, tels que le Burkina Faso, tels que le Sénégal, mais aussi de pays très développés, tels que les États-Unis ou d'autres émergents comme le Brésil ou la Chine. Et le coton des producteurs maliens se retrouve en concurrence directe avec le coton des producteurs américains.
Avec des subventions, évidemment.
Bien sûr, avec des coûts de production et des niveaux de subvention qui ne sont pas du tout comparables.
Marc Joumier, est-ce que Leïla Akhmis et Anne Le Gille soulignent l'une des réalités des paysans et des agriculteurs du sud de la planète est en train de disparaître en France? Je pense à ces superficies d'exploitation agricole qui vont toujours grandissantes. Il y a de moins en moins en France d'exploitations très modestes.
Alors, oui, ça c'est un constat, effectivement, le nombre d'exploitations baisse. Pour autant, on a quand même une agriculture qui reste assez diversifiée, on va dire, par sa taille. J'allais dire, on n'a rien à voir, les exploitations agricoles qui sont en plaine et qui font de la céréale n'ont rien à voir avec les exploitations de moyenne et haute montagne, comme on peut trouver, j'allais dire, en Auvergne ou en Savoie, où là, on va se retrouver sur des surfaces plus petites, avec des productions qui sont aussi plus restreintes et des problématiques, alors certes différentes en termes de marché, mais qui en termes d'échelle économique vont poser parfois les mêmes problèmes, les mêmes soucis de comparaison entre une petite exploitation française et une grosse exploitation française qui n'est pas placée sur le même champ d'activité. On retrouve effectivement ces mêmes problématiques-là. On a... je pense en particulier, on va dire, à toute la filière horticole et maraîchage, où là on a tout un ensemble effectivement de production où on va retrouver dans certains cas les mêmes problématiques de survie parfois économique d'exploitation, où on a des personnes qui ont la volonté effectivement de se lancer dans ces métiers-là, de vivre de leur production et éventuellement de la commercialiser. On retrouve même au niveau effectivement national des problématiques un peu identique de distribution, on va dire, de la production, de la mise en place de circuits courts qui s'avère être parfois la plus pertinente sur les petites exploitations. Ouais. Donc on retrouve dans certains cas des problématiques un peu identiques, y compris chez nous. Alors après, effectivement, avec des coûts de production qui sont autres, avec encore une fois des notions de ratio économique qui sont complètement différents.
7 milliards de voisins découvrent ou redécouvrent les métiers de l'agriculture. Comment l'agriculture est-elle pratiquée chez vous, les voisins? Comment estimez-vous qu'elle devrait l'être? En France, il y a 6 fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'en 1995. La surface agricole diminue inexorablement, la faute à l'urbanisation galopante. Et pourtant, la production française est la plus compétitive d'Europe et reste la première. La technologie est évidemment passée par là. Comment a-t-elle impacté l'agriculture? Quelle place pour l'agroécologie dans ce contexte? Et chez vous, comment ça se passe? 33 1 84 22 71 71, vos témoignages sont souhaités et ils sont attendus. Nous nous retrouvons après le flash avec nos invités pour en parler.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins, nous explorons les agricultures d'ici, de là et de là-bas avec nos invités Marc Joumier, Leïla Akhmis et Anne Le Gille. Et vous réagissez aussi bien sur Facebook, les voisins, continuez qu'au standard 33 33 1 84 22 71 71, comme Amina. Bonjour.
Bonjour Anastasia, bonjour à vos invités et bonjour à tous les auditeurs. Je suis bien contente effectivement de cette émission parce que moi, depuis un certain temps, je suis en train de trotter dans ma tête le retour, la reconversion vers l'agriculture.
Ah.
Je vous explique. Ah oui, forcément parce que je suis arrivée en France très jeune. J'ai fait des études de sciences économiques et là, je suis actuellement responsable d'une antenne jeune de la mairie de Paris. Et là, donc, je pense vraiment retourner à l'agriculture dans la reconversion. Et j'ai fait une formation également avec quelques-unes de mes sœurs au niveau du Congo, dans l'agriculture de l'oignon. Comme vous le savez, les femmes d'Ogon sont très, très impliquées dans la culture d'oignon au Mali. Et je suis originaire du Mali. Et là, ce qui est posé, c'est non seulement l'organisation du secteur agricole et en même temps les moyens d'installation et la transformation du produit après.
Amina, êtes-vous en train de nous dire que vous envisagez une reconversion dans l'agriculture au Mali, pas en France?
Au Mali.
D'accord.
Mais j'aimerais bien faire une formation en France avant d'y aller.
D'accord. Eh bien, vous, je pense que vous posez la question au bon moment, dans la bonne émission, Marc Jomier. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Pardon Amina, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je voulais tout simplement dire que aujourd'hui, vraiment, depuis petite, je suis attirée par l'agriculture et j'ai toute ma tête aujourd'hui de reconversion dans l'agriculture.
Marc Jomier, comment pouvez-vous accompagner toute la tête d'Amina dans sa reconversion?
Bonjour Amina, juste une question, je sais que ça se fait pas trop de demander à une femme quel est son âge et quel est son diplôme, mais enfin je vais quand même la poser la question. Alors votre âge et votre diplôme aujourd'hui?
Ben, disons que actuellement j'ai 56 ans et là j'ai fait des études de sciences économiques au niveau licence.
D'accord, voilà. D'accord. Donc il y a, j'allais dire, les portes sont complètement ouvertes sur les profils, j'allais dire, comme les vôtres.
Ça, et c'est
ils sont, sont assez nombreux, on va dire, dans les dispositifs, on va dire, de formation continue, de formation professionnelle continue qui existent au sein de l'enseignement agricole. Donc vous avez tant dans les établissements publics que privés qui existent, on va dire, en France. Hein, vous avez plus de 800 établissements. Alors tous ne font pas de la formation continue, mais vous en avez quand même au moins un par département qui est en capacité de vous proposer un diplôme d'entrée, donc qui est quand même spécifique pour, on va dire, pour les adultes, hein, j'allais dire comme nous tous autour de la table, qui ont envie de se reconvertir au métier de l'agriculture. Donc c'est un diplôme de niveau 4, de niveau bac, qui est le premier diplôme en fait qui va vous donner toutes les compétences en termes de technique et ensuite de gestion d'entreprise agricole. Alors c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole.
C'est un brevet qu'on obtient au bout de combien de temps, Marc Jomier?
Généralement, c'est une formation qui se fait au maximum sur 12 mois, quelle que soit la région. Globalement, c'est sur 12 mois.
Ça demande, est-ce que c'est un brevet qui exige de ne pas travailler, d'être totalement disponible?
Alors, effectivement, là, par contre, c'est des formations à temps plein.
Que je pourrais peut-être avoir même par le DIF.
Oui, non, pas par le DIF, par un congé individuel de formation, pas par le DIF.
Ah,
le
oui.
DIF, vous n'avez pas assez d'heures pour pouvoir le faire parce que c'est une formation qui généralement se fait au moins sur 900 heures. Donc, le DIF vous permettra pas de couvrir l'intégralité de la durée de formation, mais un congé individuel de formation ou éventuellement dans certains cas vous avez des possibilités de financement par les conseils régionaux dans certains cas, vous permettent d'y accéder. Derrière votre problématique sur la production, on va dire, d'oignons, ça après il faut chercher parce que c'est une formation qui est, je vais le comparer à un meuble avec une multitude de tiroirs où vous pouvez effectivement vous spécialiser à travers des unités capitalisables sur tout un ensemble de production. Il y en a qui font de la culture d'escargots, du miel.
C'est l'oignon.
Eh bien, je suis quasiment persuadé qu'on peut trouver un établissement qui est en capacité, pas de vous apporter spécifiquement, on va dire, sur l'oignon, mais au moins sur certaines productions qui sont des productions, là, pour le coup, complètement maraîchères. Et là, vous allez effectivement sur du maraîchage biologique, etc., ou sur du maraîchage conventionnel, et vous allez trouver des centres. J'allais dire, en Ile-de-France, de mémoire, vous en avez deux, c'est Saint-Germain-en-Laye et Bricq-Entrebert pour essayer de vous répondre. Et là, là-dessus, sur le maraîchage, à mon avis, vous allez trouver. Voilà.
Vous m'enviez parce que j'ai envie même d'entraîner des jeunes, puisque bon, je me suis occupé pendant 17 années des jeunes dans l'agriculture. Parce que je sais que c'est un métier d'avenir.
Et ce BPREA peut également vous apporter, il y a encore une fois, parce que c'est quelque chose, c'est une formule de formation qui est très très souple pour les adultes, avec vous avez évidemment de la formation en présentiel dans un centre de formation continue, ça c'est une première chose, mais vous avez la possibilité dans certains cas, par exemple, mettons que vous alliez à Saint-Germain-en-Laye ou à Brie-Comte-Robert, que vous souhaitiez en même temps faire, enfin acquérir, on va dire, des compétences sur de l'animation avec des jeunes autour d'ateliers maraîchage, vous pouvez aussi éventuellement trouver des modules de formation à distance, et là les centres de formation vous accompagnent pour trouver les bonnes ressources et vraiment essayer d'avoir entre guillemets la formation qui corresponde le plus à votre besoin et à votre futur projet professionnel. Ça c'est quelque chose qui est complètement faisable, on va dire, autour de ce brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Moi je vous invite rapidement quand même à passer au salon de l'agriculture, parce que vous avez les interlocuteurs, les établissements publics et privés qui y sont présents,
et qui évidemment pourraient vous répondre. Pour les voisins qui nous écoutent, qui sont franciliens, c'est 13 euros l'entrée pour les adultes, et le tarif peut être dégressif selon qu'on est accompagné d'enfants ou qu'on est sans emploi.
Le tarif d'entrée, c'est si on y trouve ce qu'on cherche, c'est le plus important.
Voilà. En termes d'information, je pense que vous pouvez également regarder effectivement sur le site du ministère de l'Agriculture. Vous avez un site qui référence effectivement toutes les formations et toutes les écoles qui présentent, enfin qui peuvent vous offrir effectivement ce brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Mais en Île-de-France, il y en a de mémoire, il y en a deux qui le réalisent.
Anne Legille.
D'accord. Oui, je
vous remercie infiniment.
Oui. Bonjour Amina, je voulais juste vous dire que vous allez faire plaisir à votre ministre du Développement Rural, qui était hier dans les locaux de l'Agence française de développement, qui nous disait qu'il avait rencontré la diaspora malienne lors de son séjour et que la diaspora lui avait fait part de son souhait d'investir davantage dans l'agriculture. Et donc vous représentez effectivement, vous illustrez parfaitement ses propos, et il nous a dit son souhait de réfléchir à un dispositif justement visant à encourager ces initiatives. Donc je pense que vous pourrez trouver aussi au niveau du Mali des appuis pour réaliser votre projet.
Merci Amina pour votre appel.
À très bientôt, au revoir.
Merci et bonne chance dans votre
merci
quête.
Beaucoup.
Il y a de fortes chances pour qu'elle aboutisse. 7 milliards de voisins au salon de l'agriculture découvrent, redécouvrent les métiers de l'agriculture. Le saviez-vous, les voisins, les métiers de l'agriculture innovent. Suivons Antoine Lalanne-Desmet dans les allées du salon de l'agriculture à Paris. Smartphones, puces électroniques et robots sont pour certains agriculteurs, mais pas tous vous l'entendrez, les outils de l'agriculture de demain.
Et voilà, on applaudit notre dernier candidat. Bravo.
Hervé Pillot, je suis agriculteur, éleveur de lait en Vendée. Alors les premiers robots que nous avons vus en élevage, c'est des robots de traite. La traite des vaches doit se faire matin et soir normalement. Alors avec des robots, c'est quand les vaches veulent. Donc les robots ont été les premiers assistants qui ont aidé les éleveurs. Alors, se sont rajoutés à ça des systèmes pour nettoyer les étables, des systèmes pour alimenter les animaux. Nous avons également des robots qui permettront demain de remplacer les pesticides, c'est-à-dire ces robots-là vont très vite être capables de sélectionner les mauvaises plantes.
À la main, vous avez une tablette parce que vous êtes un éleveur très connecté. D'ailleurs, sur Twitter, il y a plus de 3000 personnes qui vous suivent. Est-ce que le smartphone, la tablette, ça pourrait être des outils pour gérer son exploitation, des outils pour l'avenir ?
Totalement. Pour suivre l'agronomie de nos sols, pour suivre nos stocks, suivre notre comptabilité, c'est une deuxième main pour l'éleveur et pour l'agriculteur.
Moi, je vais continuer à faire le tour des innovations dans le salon de l'agriculture. Peut-être que je croiserai un autre agriculteur avec un smartphone. On en voit de plus en plus.
Oui, 70% des agriculteurs ont une page Facebook. Ça nous permet de communiquer avec les consommateurs qui sont nos clients finaux. Le consommateur a besoin d'être assuré sur ce qu'il met dans son assiette, et ça c'est tout à fait normal. Parce que la nourriture pour lui vient du supermarché, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est à nous de montrer ce que nous faisons. Notre métier est beau, nous devons le montrer tel qu'il est, c'est-à-dire beau.
Merci Hervé. Maintenant les voisins, on va aller voir du côté des innovations écologiques.
Alors bonjour, Geoffrey Moncorgé, cofondateur de la société Nénuphar.
Qui vise en fait à mettre des bâches au-dessus des faux salisiers pour récupérer les gaz et transformer tout ça en énergie.
Les faux salisiers bulles, émettent des gaz à effet de serre. Donc nous on s'est dit, pourquoi ne pas faire une solution très simple. Vous avez parlé de bâche, c'est vrai que c'est une bâche qui remplit plusieurs rôles. Le premier c'est d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, d'éviter les odeurs, de récupérer l'eau de pluie qui tombe normalement dans la fosse, et de capter et stocker le biogaz qui est émis directement de cette fosse salisée. Ensuite, ce biogaz, on peut l'utiliser pour produire de l'électricité et demain, on espère l'utiliser en carburation sur des tracteurs, par exemple.
Et justement, Nénuphar a été adapté, a été mis en place dans une ferme qui est la ferme de Grignon, c'est au sud-est de Paris. Et c'est une ferme dont l'objectif est de faire de l'agriculture, mais aussi d'avoir un impact minimal sur l'environnement.
On est sur une ferme de 400 hectares avec 185 vaches laitières, 550 brebis, 24 salariés, 3 emplois supplémentaires depuis 2013 à la ferme de Grignon. Donc on peut être vertueux au niveau environnemental et continuer à créer de la valeur.
Je suis avec Martial Marguet. Martial Marguet, vous êtes éleveur, éleveur de vaches à la frontière suisse. À 1100 mètres d'altitude, on ne capte pas les téléphones portables, mais ça n'empêche pas la technologie d'être là, c'est-à-dire que vos bêtes ont sur l'oreille une puce électronique.
Le cas le plus concret que je puisse vous expliquer à cet instant, à la naissance d'un petit veau, on va forcément affecter un numéro à cet animal qui correspond à mon code élevage, mais aussi à une identification spécifique à l'animal. Envoyé par Internet à la base de données, cette base de données donc va enregistrer l'animal né à tel jour, de tel sexe, issu de telle vache et de tel père. L'animal, moi je vais le gérer dans ma base de données, inséminer telle date, tarir à tel moment. Enfin, on peut programmer un tas d'événements à effectuer sur l'animal et les enregistrements apportés et renseignés dans l'ordinateur vont aussi mettre des messages d'alerte. L'animal est à 3 semaines, surveiller retour des chaleurs possibles, à 6 semaines. Ce qui fait que un opérateur quelconque, si je lui en donne un accord, va pouvoir connaître le statut sanitaire de la vache que je vais lui proposer pour la mettre en commerce. Et puis, à l'instant T, on saura si l'animal il a un feu vert ou un feu rouge à être transporté, véhiculé hors de mon exploitation. C'est une avancée forte parce que quelque part, elle sécurise autant l'éleveur que je suis que l'entourage dans lequel j'évolue.
Merci Martial. Vous direz bonjour de la part de tous les voisins de RFI à vos vaches qui sont sous la neige en ce moment dans le Jura à 1100 mètres d'altitude. Bon salon.
Merci beaucoup à vous.
Alors maintenant, on va aller voir Mélanie qui est éleveuse, qui a 28 vaches et pour qui l'innovation ne passe pas par les nouvelles technologies.
Donc je suis Mélanie, je suis paysanne dans l'Aude, là dans le sud de la France, vers les Pyrénées. Et j'élève des vaches dans les moyennes montagnes et je produis de la viande.
Qu'est-ce que c'est que l'agriculture du futur ?
Ben pour moi, c'est une agriculture paysanne qui économise ses ressources, qui travaille avec justement les possibilités de son territoire, qui respecte l'environnement et qui fait vivre beaucoup de paysans. C'est ça pour moi l'agriculture de demain. Une économie où on peut satisfaire ses propres besoins et pas obligé d'avoir des choses qui nous arrivent du bout du monde. Moi j'ai des vaches donc avec nos races qui sont adaptées à nos montagnes, à nos climats, etc. Et c'est en travaillant avec ces animaux-là et dans des bonnes conditions qu'on fait pour moi l'agriculture qui sera celle de demain.
Alors aujourd'hui vos vaches, vous les vendez dans votre département, c'est ça ?
Oui. On les fait abattre localement dans l'abattoir local. On les fait découper aussi par le boucher. On vend directement. Donc c'est aussi faire des emplois dans l'abattoir, dans l'atelier de découpe. Et puis des gens qui mangent une nourriture saine dans un rayon de moins de 80 km de chez eux.
En fait, vous êtes en contact direct avec ceux qui mangent votre viande.
Oui, et j'ai les retours s'ils l'aiment ou pas d'ailleurs aussi.
Merci Mélanie.
Avec plaisir et bon courage à vous.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Merci à Antoine Lalanne Desmer. Rappelons que le Salon de l'agriculture est ouvert jusqu'au 1er mars, 9h-19h. Leïla Akhmis, que vous inspire ce reportage ?
Bah écoutez, il m'inspire beaucoup parce que justement les innovations technologiques écologiques, c'est justement ce que recherche à soutenir la fondation donc du Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable. Et les smartphones et les tablettes sont aussi chez les agriculteurs au Maroc et pas seulement les grands agriculteurs. Nous avons d'ailleurs soutenu une initiative dans le sud du Maroc, dans une région dans la région d'Agadir qui est connue pour ses agrumes et où qui a déjà vécu vécu des drames écologiques avec un assèchement des nappes phréatiques. Et là, donc, nous avons soutenu une initiative de stations agro-météorologiques au niveau d'exploitation et qui sont ensuite reliées à une plateforme qui permet ensuite l'envoi de par SMS de données climatiques quotidiennes aux agriculteurs. Donc là, vous avez vraiment des tout petits agriculteurs qui reçoivent donc chaque jour l'exacte dose d'eau à apporter à leur culture. Et les résultats sont impressionnants puisque on a une économie de l'ordre de 20% d'eau. Et qui dit économie d'eau dit aussi économie d'énergie, elle aussi de l'ordre de 20%. Et donc en moyenne par an, c'est l'équivalent d'un barrage moyen, ce qui dans nos pays est vraiment très important et très précieux. Et nous avons aussi par ailleurs soutenu un programme d'efficacité énergétique, là pour le coup dans des grandes exploitations agricoles. Et l'innovation technologique, c'était le pompage solaire, qui est une nouvelle technologie, donc dont la viabilité économique et technologique a été démontrée. Et aujourd'hui, le gouvernement marocain met en place un vaste programme pour subventionner ce type d'installation et vise d'ici 3 ans l'équipement de 20 000 exploitations, soit de couvrir 100 000 hectares.
Anne Legille, une réaction par rapport à ce reportage?
Mais je suis d'accord avec l'éleveuse qui est intervenue à la fin du reportage. Effectivement, l'agriculture du futur, et notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, sera une agriculture plus écologique, plus économe en énergie, en ressources naturelles.
Pardonnez-moi, mais alors je me mets à la place des agriculteurs africains qui vous entendent, qui ont entendu pendant 5 minutes les avancées extraordinaires technologiques, et qui du coup s'entendent dire non, mais ça c'est pour le Nord, et puis vous, revenez à l'agroécologie, c'est très bien, c'est à votre portée. Vous comprenez que ça puisse être frustrant?
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a tendance à opposer agriculture industrielle ou nouvelle technologie à agroécologie, en pensant que l'agroécologie, c'est l'agriculture du passé.
Oui,
l'agroécologie, c'est une agriculture moderne. C'est justement ce qu'a dit cette éleveuse, puisque l'agriculture d'aujourd'hui doit faire face aux défis de la rareté des ressources naturelles, notamment l'eau, comme l'a dit Exactement. Elle doit faire face à un coût des ressources, notamment des ressources énergétiques, de plus en plus important. Donc, il faudra que ces systèmes soient plus autonomes, plus performants. Et donc, c'est une agriculture moderne, l'agroécologie. Et c'est, je crois, le message qu'il faudrait faire passer à vos auditeurs. Ce n'est pas une agriculture tournée vers le passé. Et ce que je voulais dire, c'est que on peut avoir une agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire une agriculture qui est à la fois productive, mais qui préserve les ressources naturelles, qui est ancrée dans son territoire, qui crée de l'emploi, de la valeur ajoutée, comme l'a dit l'éleveuse en fin du reportage.
Oui.
Mais ça n'empêche pas l'utilisation de nouvelles technologies. Leïla Akmis là, montré avec l'exemple
du pompage
solaire.
Oui.
Exactement. Il y a beaucoup d'autres exemples, notamment sur le plan économique, parce que l'innovation, elle n'est pas seulement technique, elle est aussi économique, elle est aussi organisationnelle. Par exemple, j'étais au Burundi au mois de décembre et les agriculteurs du Burundi ont des problèmes avec la pesée de leur thé, puisqu'ils ne savent pas tous lire et écrire. Et le problème, c'est qu'on peut inscrire sur un carnet un poids qui n'est pas celui
pas le poids réel.
Donc on va financer à l'Agence française de développement des pesons électroniques qui vont faire que dès que le thé sera pesé, la quantité pesée sera directement enregistrée dans une base de données et on ne pourra plus gruger, entre guillemets, l'agriculteur.
Marc Jomier, il n'y a pas deux agricultures, pas une dans le futur et une dans le passé.
Non, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Effectivement, l'agroécologie, c'est simplement remettre, on va dire, des choses aux normes, des choses au propre, redevenir raisonnable, mais tout en maintenant, on va dire, une certaine production. Ça correspond, on va dire, pleinement à la volonté de notre ministre de l'Agriculture dans son grand plan Produisons Autrement, qui a été décliné dans les établissements avec enseigner à produire autrement. Et j'allais dire, dans tous les exemples qui ont pu être cités effectivement dans le reportage, ce sont des choses qu'on retrouve largement dans les exploitations agricoles de nos établissements, à savoir effectivement la production d'énergie à partir des biogaz, des méthaniseurs, ça fait partie d'un grand plan. On retrouve, j'allais dire, avec des cofinancements parfois privés, mais surtout des conseils régionaux, des établissements qui se trouvent aujourd'hui dotés de méthaniseurs qui permettent de montrer après évidemment à nos élèves, à tous nos apprenants, comment on peut produire effectivement un certain nombre de choses, mais ça passe également par des éoliennes, ça passe également par des panneaux photovoltaïques, y compris dans des zones de montagne où a priori, dans certains cas, on pourrait estimer que dans les Vosges, l'ensoleillement n'est pas génial, mais on peut quand même effectivement chauffer des étables, attraper de l'énergie. Et donc tous ces petits éléments-là, mis bout à bout effectivement, permettent de mieux maîtriser les coûts. Enfin, pour nous, effectivement, sur la production agricole en France, c'est plus une maîtrise des coûts et une maîtrise de ce qu'on dépense en termes d'énergie qui est visée. Mais c'est vrai qu'on pourrait largement décliner aussi autour de tout ce qui est technologie sur la maîtrise de la ressource en eau, parce que la problématique se pose aussi chez nous, plus encore une fois en termes de coûts qu'en termes de rareté de la ressource. Donc toutes ces problématiques-là sont largement abordées dans les différentes formations dans nos établissements et largement mises en application dans les exploitations agricoles qui sont systématiquement présentes dans les établissements. Donc on a effectivement un premier modèle déjà à montrer à nos élèves.
L'une des problématiques, l'un des défis de l'agriculture, qu'elle soit pratiquée au nord ou au sud de la planète, c'est son attractivité, notamment auprès des plus jeunes. Et c'est l'un des soucis de l'une de nos voisines qui s'appelle Salimata, qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonjour Salimata.
Bonjour Anastasia, bonjour toute l'équipe, bonjour tous les agriculteurs du monde, bonjour.
Ça en fait quelques-uns.
Et voilà, je vous remercie de m'avoir rappelé. Donc moi je vous rappelle parce que j'ai une association qui est en phase, on vient d'être créée pour aider les jeunes à rester en Afrique et puis pour s'occuper de l'agriculture parce qu'on a vu que l'agriculture est en disparition en Afrique.
Alors, où en Afrique, Salimata? C'est vaste, l'Afrique.
Surtout au Sénégal et au Mali. On est basé surtout au Sénégal et au Mali. Donc, voilà. Nous avons créé une association afin d'aider les jeunes à s'occuper de l'agriculture.
Et est-ce que vous rencontrez un écho favorable, positif? Parce qu'on le disait, les jeunes s'intéressent de moins en moins et très peu au métier de l'agriculture.
Voilà, la base de la création de notre association, c'est pas ça, parce qu'on s'est rendu compte quand on partait à l'époque en Afrique, pendant les vacances, les ancêtres, ils accompagnaient pendant les vacances scolaires, c'était l'agriculture, tous les jeunes allaient
On accompagnait les grands-parents au champ, au village.
Et là, on s'est rendu compte quand on va en vacances, les jeunes, ils font plutôt le thé, ils s'occupent plus de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est pour les pauvres. Donc c'est pas ça. Donc ils sont souvent des enseignants et pourtant les enseignants pendant les vacances scolaires ils ont le temps de cultiver des champs pour remplir.
Comment faites-vous Salimata pour les intéresser quand même? Quels arguments vous avancez?
Ben là en ce moment on a créé une association, on est en train de trouver des arguments pour pouvoir les inciter. Vraiment on est vraiment là en phase de démarrage du projet.
D'accord. Voilà, alors peut-être qu'on peut se tourner vers Anne Le Gille et Leïla Akmis pour demander des quelques trucs, quelques éléments que vous pourriez apporter à ces jeunes pour les inciter à revenir vers la terre, Anne Le Gille.
Voilà, c'est tout ça qu'on est en train de rechercher.
Oui, alors, je pense qu'il y a certains a priori qu'il faut absolument combattre. Premier a priori, l'agriculture, c'est pour les pauvres. Je pense qu'on peut gagner dignement sa vie en étant agriculteur, y compris au Sénégal et au Mali, et nous en rencontrons régulièrement lorsque nous allons dans ces pays. C'est vrai que pour que l'agriculteur puisse gagner de l'argent, il lui faut des prix rémunérateurs, il faut une certaine taille d'exploitation qui lui permette de tirer des revenus qui puissent faire vivre sa famille, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le premier message à faire passer. Aujourd'hui, on a des agriculteurs en Afrique qui ont des voitures, alors que des instituteurs ne peuvent pas s'en payer.
Des pays, des noms. Donnez-nous les noms des bons élèves. L'Afrique, c'est 54 États.
Alors, comme je le disais, votre auditrice parle du Sénégal.
Sénégal et au Mali. Au Sénégal et au Mali, on a des agriculteurs qui gagnent leur vie.
Même pas besoin d'aller chercher chez le voisin camerounais ou sud-africain.
Non, y compris dans les pays de la zone soudano-sahélienne, on a des paysans qui gagnent très bien leur vie. Après, je pense qu'un des problèmes que rencontrent les jeunes, le défaut d'attractivité, il est lié à la pénibilité du travail, parce que c'est vrai que quand on travaille avec une daba sous le soleil, 8 heures ou 10 heures par jour, courbé sur le champ pour désherber, c'est pénible. Donc il va falloir trouver des moyens de mécaniser cette agriculture en préservant les sols.
Parce
que
là, la volonté gouvernementale intervient.
Bien sûr, politique.
Et là aussi, les inégalités face.
Tout à fait. Et l'autre élément, c'est l'attractivité des territoires ruraux. Puisqu'il faut que dans ces territoires, les jeunes puissent avoir accès à Internet, puissent avoir accès aux services qui sont ceux des jeunes urbains. Et donc, effectivement, ce sont des politiques agricoles qu'il faut développer et que nous accompagnons à l'Agence française de développement. Ce sont des mécanismes de formation. Nous les accompagnons au Cameroun, nous les accompagnons à Madagascar. Ce sont des dispositifs de conseil agricole qui vont permettre aux agriculteurs d'être plus performants et donc d'améliorer leurs revenus. C'est l'ensemble de ces actions qui vont faire que le métier d'agriculteur va redevenir attractif. Mais je pense qu'il faut que nous soyons confiants, puisque aujourd'hui, nous avons par exemple au Bénin des lycées agricoles qui ne désemplissent pas et où les parents payent pour la scolarité de leurs enfants. Ce qui était impensable il y a quelques années, de payer pour que son fils devienne ou sa fille devienne
retourne à la terre. Et c'est sur cette belle note positive que nous allons nous quitter. Merci Anne Le Gille. Merci. Vous interveniez pour l'AFD. Merci Marc Joumier. Vous veniez pour le ministère de l'Agriculture. Et merci Leïla Akhmis pour la fondation Crédit Agricole au Maroc. Merci également à l'équipe 7 milliards. Cette émission, Les Voisins, est podcastable. Vous la retrouverez sur la page 7 milliards de voisins de RFI. Merci à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Éléonore Kranik, Romain Dubrac, Jonas Malet-Solart et Didier Chérouze. Demain, les voisins, nous nous intéresserons aux femmes geeks repenties. Vous savez, ces femmes qui ne peuvent pas vivre sans connexion, mais qui ont décidé de s'en sortir. Nous en parlerons avec Catherine Lejal, sociologue et auteure de J'arrête d'être connectée. Bonne journée, les voisins, à l'écoute des programmes de RFI.
À découvrir.